Bienvenue au Polysécur, épisode spécial Sécure. Je suis avec Cédric. Comment vas-tu?
Bonjour, ça va bien? Ça va super et toi?
Très bien aussi. On revient sur ta conférence qui était sur des incidents de type info nuagique qui sont, je crois, maintenant la nature même de ce que la réalité c'est. Et depuis que tout le monde a migré info nuagique, ben, les attaquants ont suivi. Donc, je vais te laisser mettre le contexte à ça, puis on va continuer avec ça.
Ouais, bah effectivement, il y a pas de mystère. Hein. Plus les migrations avancent vers l'info nuagique, plus on constate des incidents. Nous, ce qui est intéressant en fait chez KPMG, c'est que moi je m'occupe de la partie vraiment cloud security, mais on travaille avec nos collègues de l'Incident Response qui investiguent les incidents. Si bien que ça nous donne l'occasion, si tu veux, de travailler autant en prévention que de travailler sur la réponse aux incidents quand on accompagne nos collègues. Et puis ils nous appellent de plus en plus, nos collègues. Ils nous appellent de plus en plus souvent. Alors c'est pas bon signe, mais c'est logique, c'est parce qu'on a de plus en plus de charges de travail dans l'info nuage. Puis quand on investigue ces incidents, on constate que oui, ça vient confirmer certains chiffres qu'on peut lire dans la presse ou dans des sources spécialisées. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, aujourd'hui on en est arrivé à des estimations quand même, par exemple sur la violation des données, là, les brèches de données, aujourd'hui on estime que 45% des incidents de brèches de données sont issus de l'info nuagique, sont liés à des environnements info nuagiques. Là, c'est quand même, on n'est plus dans du anecdotique. Là. On est sur le point de bascule. Ça, c'est une statistique de 2024. Puis on s'attend à ce que cette année ou l'année prochaine, on aura une majorité des incidents qui vont être dans l'environnement. Parce que encore une fois, c'est logique. Les charges de travail sont en majorité aujourd'hui dans le produit.
Ouais, c'est ce que tu relatais à ta conférence. Justement, la bascule s'est faite. On l'a vu. Au Québec, notamment, il y a eu un effort très grand du gouvernement de pousser les gens là, mais tout le monde, avec le confinement, ont mis un énorme effort là maintenant, puisqu'il y a les avantages, et ces avantages-là persistent, dépassés le confinement. Maintenant, les habitudes ont été prises, il y a des gros avantages, mais les données aussi ont suivi et sont allées dans l'info numérique. Donc, l'intérêt des attaquants vont aller vers ce genre de choses-là. C'est
ce qui est un peu décevant là dans ce mouvement. Moi, je pense que cette migration, comme tu le dis, elle s'est produite par du bon sens là pour s'ajuster à des nouveaux cas d'usage, à des nouveaux besoins, une nouvelle réalité. Là. Malheureusement, tu sais, dans les raisons de la migration info nuagique, il y en a plusieurs. Tu peux avoir plusieurs stratégies là de migration info nuagique. La sécurité, c'en est une. On l'oublie là, mais Tu as des entreprises qui choisissent d'aller vers l'info nuagique pour des questions de sécurité. Malheureusement, clairement, il y a un truc qui marche pas parce que le résultat est qu'aujourd'hui, une autre statistique, c'est que on estime que dans les 18 derniers mois, environ 80% d'entreprises ont subi une violation, une brèche de données dans l'info nuagique. 80%, c'est énorme. Ouais, ça veut dire que là, on fait cette migration, mais que clairement, on ne fait pas ce qu'il faut d'un point de vue sécurité.
Ça, c'est évident. Puis pour l'avoir vu aussi, parce que c'est un mythe qui persiste encore, parce qu'au début du confinement, je peux comprendre que les gens, on n'avait pas une très grande maturité, mais on entend encore ça. Comme tu dis, on migre en infonuagique pour des raisons de sécurité, ce qui est vrai parce que les opérateurs sont généralement plus sécuritaires, mais sur leurs infrastructures à eux, pas ce que nous mettons à l'intérieur. Donc là, la nuance est importante. Les gens, des fois, sont un peu surpris qu'ils doivent mettre une certaine sécurité dans leur périmètre, puis oublient la fameuse charte qui est souvent répétée de responsabilité. Puis celle-là, elle est malheureusement pas très acquise encore chez les gens, là, malheureusement.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça se reflète même surprenamment sur les cibles infonuagiques des attaquants. Parce que ce que tu dis est très pertinent, et c'est encore plus pertinent sur les SaaS. On le sait, dans le modèle de responsabilité infonuagique, plus tu montes en termes d'abstraction, plus tu te rapproches des SaaS, Software as a Service, plus bah, ta responsabilité diminue. Et effectivement, déjà sur les plateformes de type AWS, Azure, GCP, il y a beaucoup de mauvaises compréhensions. Beaucoup de gens ont tendance à croire que c'est magique et que ça va se faire tout seul. Mais c'est encore pire quand on aborde les SaaS, parce qu'effectivement, il y a quand même, bah, t'as moins d'options, t'as moins de responsabilités, tu gères plus les patchs, tu gères plus les vulnérabilités, il y a plein de choses que tu gères pas. Le risque lié à ça, c'est que bah, le peu de responsabilités qu'il te reste, tu ne l'assumes pas. Tu le fais pas correctement. Et la preuve en est, c'est que justement, dans ces cibles des attaquants, ces cibles d'info nuagique, les applications SaaS représentent 31% des incidents recensés. 31% des incidents, c'est dans les applications énorme. SaaS, qui sont quand même les applications les plus faciles à sécuriser, là, on s'entend. Mais c'est ça. Comme tu dis, modèle de responsabilité mal compris, la tendance à croire que tout est géré par le partenaire. Moi, j'amène souvent l'analogie, là, c'est la sécurité cloud, là, c'est une boîte à outils qui t'est mise à disposition. Et on te met à disposition une boîte à outils incroyable dans l'info nuagique, notamment sur les plateformes. Tu as énormément d'outils pour sécuriser, ce qui fait que tu peux vraiment construire une cathédrale avec cette boîte à outils. Le problème, là, c'est que personne te force à l'utiliser, cette boîte à outils. C'est si tu décides de construire une baraque au fond du jardin, ça sera une baraque au fond du jardin, ça sera pas une cathédrale. Là, c'est, je veux dire. Et t'auras beau avoir les meilleurs outils du monde, c'est ça. Faut savoir les utiliser. Donc, avec les applications SaaS, on a le stockage cloud aussi, là, qui est très ciblé. Ça, c'est étonnant parce que, en plus, là encore, les fournisseurs font beaucoup d'efforts pour nous aider à sécuriser ces stockages, pour en parler. La fameuse couche de gestion des cloud providers dans les plateformes AWS, Azure et GCP. Donc, on va cibler cette fameuse API Microsoft, Amazon, plus que les serveurs en réalité. Oui, on a toujours des problèmes de serveurs vulnérables, non patchés, exposés. Malheureusement, c'est sûr, on a eu plusieurs incidents comme ça. Mais rapidement, là, on se retrouve sur des attaques qui très rapidement vont prendre place dans la couche de gestion et plus sur les serveurs. Parce que avec la couche de gestion, tu vas avoir une capacité de rebondir, de te balader beaucoup plus importante. Le mouvement latéral est beaucoup plus simple sur la couche de gestion que si tu restes au niveau des serveurs.
Ouais, puis c'est normal. Puis les attaquants aussi bénéficient de cette simplicité-là. C'est ça aussi que les gens oublient. Ça simplifie notre vie. C'est l'info nuagique, ça, à bien des égards, facilite le traitement, facilite le déploiement, facilite la gestion. Mais quand on arrive aux autres attaquants, ben ils bénéficient aussi de tous ces éléments-là qui nous facilitent la vie. Fait que si on les sécurise pas, ces moyens-là qui nous facilitent la vie, ben ils vont utiliser les mêmes. C'est, au lieu d'aller dans la piste expert, ils vont aller dans la piste débutant. Surtout qu'on lui a donné l'accès à la piste débutant. Donc là, après là, est-ce qu'il va aller attaquer un serveur des pas patchés et ainsi de suite qui demande beaucoup plus d'efforts, ou vont faire un appel à API puis il a accès à tout de suite puis il est capable de voir toutes les informations? Ben, je pense qu'il va faire l'appel à API bien avant.
Ben ouais, bien sûr. C'est effectivement un bon point. Puis l'automatisation, c'est ça, pour le coup, c'est magique, c'est pas le bon terme, mais moi je trouve ça, c'est une capacité incroyable. Et puis c'est tellement un outil précieux pour un SOC, pour une blue team, là, de pouvoir automatiser des playbooks de réponse. Aujourd'hui, on peut, on est toujours en train de se battre autour de du fameux KPI MTTR, MTTD, là, Mean Time to Detect, ça c'est une chose, mais surtout Mean Time to Response. Pour aller améliorer notre Mean Time to Response, tu peux mettre des processus plein d'humains derrière une console et puis envoyer plein de courriels injurieux à tes analystes quand ils répondent pas assez vite. Mais ou alors tu peux aller développer de l'automatisation, et dans l'info nuagique, tu as des capacités incroyables d'aller vraiment très très loin dans l'automatisation. Donc pour une blue team, ça a beaucoup de valeur, mais effectivement pour l'attaquant, c'est exactement la même chose. Il va aller utiliser l'automatisation sans vouloir trop digresser. C'est d'autant plus facile qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu as juste besoin de poser la question à ChatGPT. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, mais c'est ça pareil.
Je ris parce que c'est vrai. Parce que je dirais, pas des gens maintenant, quand ils sont perdus dans la gestion de leurs infos, de l'info numérique, vont faire cette chose-là, ils vont poser la question à ChatGPT, qui, genre, 9 fois sur 10, a une réponse qui est valable. Donc, c'est encore là, les méchants vont aussi prendre des chemins faciles. Puis ils vont faire la même chose que nous. Sont aussi paresseux que nous. C'est-à-dire, fait qu'ils veulent économiser le plus de temps possible parce que c'est du rendement. Eux autres, ils veulent faire le plus d'argent possible. Ils ne perdront pas du temps dans des chemins compliqués qui prennent du temps, qui ne sont pas de temps payants. Ils vont aller sur des chemins faciles qui sont beaucoup plus payants. Puis c'est là où l'attrait de ces méchants-là est davantage.
Alors, dans les chemins faciles, ben en fait, je reviens à petite transition d'ailleurs avec le Gen AI, le phishing a beaucoup bénéficié, l'hameçonnage a beaucoup bénéficié de pour les attaquants, je veux dire, de l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Je pense que les gens ont dû remarquer que les courriels hameçonnage sont quand même de plus en plus bien écrits. Sans faute, bien tourné, les phrases sont pas weird. C'est vrai que c'est vraiment maintenant, ça devient quand même du travail de qualité. Parce qu'en fait, c'est et puis ça a été prouvé, documenté. Microsoft l'a beaucoup documenté, a fait un très bon rapport là-dessus. C'est les groupes de hackers, notamment russes, nord-coréens et chinois, utilisent beaucoup le Gen AI. Et ça, l'inconvénient, c'est que là, dans le contexte infonuagique, ben, les attaques par hameçonnage, c'est ce qui peut aboutir à des compromissions d'identité dans l'infonuagique et donc des portes ouvertes sur l'infonuagique et voir la console de gestion. Ça, c'est donc un exemple simple pour un attaquant. Alors, on utilise un vieux procédé, mais à côté de ça, on a aussi les erreurs de configuration, évidemment. C'est vrai que c'est riche, l'info nuagique, en termes d'options. Même les SaaS, tu sais, les SaaS, on l'a dit, le modèle fait que tu as beaucoup moins de responsabilités, mais la réalité, c'est quand tu parles de SaaS de type Salesforce, ServiceNow, Workday, M365, là, c'est un très bon exemple. Excusez, là, je veux pas jurer, là, mais il y en a des configurations, là, c'est la folie, c'est hyper riche comme produit. Maîtriser toutes les configurations, c'est compliqué. Donc oui, effectivement, on a régulièrement des expositions par maladresse, par erreur. Et puis ça, les attaquants sont très rapides à en profiter. Mais par exemple, dans les chemins d'attaque, du coup, nous, dans les incidents, on voit justement l'exploitation de ces différents chemins d'attaque. Et puis on a plusieurs exemples comme ça liés à des chemins cités là. Donc par exemple, le hameçonnage, on en a eu un. Celui-là, je l'aime beaucoup, dans le sens où ça met en avant l'importance de la maîtrise des identités dans l'infonuage. Les identités, on le sait, c'est vraiment un pain dans l'infonuagique, je vais le dire comme ça, là, parce que c'est vrai pareil. Là. Cette richesse dont je parlais des fonctionnalités dans l'infonuagique, ça se retrouve comment ? Ça se retrouve dans la quantité des permissions qui sont attribuables. C'est-à-dire que comme on a énormément d'actions possibles dans un environnement comme AWS ou Azure ou GCP, derrière, on a énormément de permissions qui sont attribuables ou pas. Pour faciliter la vie des utilisateurs, les cloud providers, ils vont vous mettre à disposition des politiques gérées, ce qu'on appelle les politiques gérées, comprenant déjà un certain nombre de permissions, histoire que tu n'aies pas besoin d'aller dans la granularité. Mais là, évidemment, oui, ça te facilite la vie. Le problème, c'est que tu te retrouves avec des utilisateurs ou des comptes de service qui ont des politiques gérées avec beaucoup de permissions, pas forcément utiles. Il y a des chiffres comme ça, donc documentés. Je pense que c'était Palo Alto qui l'avait documenté. Autant dans Azure d'ailleurs que AWS, c'était comme 95% des permissions sont non utilisées, sont over-privilèges dans AWS et Azure. À cause des politiques gérées.
J'ai pas de misère à le croire, puis on regarde juste dans les rôles standards qui sont donnés dans les plateformes SaaS, par exemple, c'est démesuré la séparation. Soit on a absolument rien, soit on a genre la moitié, puis soit on a tout. Donc, la distinction en ça est très, est très peu granulaire. Mais en plus, le problème de granularité que tu mentionnes, il est atroce parce que peu importe la plateforme SaaS ou puis même pas SaaS, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi. On peut contrôler à peu près tout et n'importe quoi. Chaque petit gizmo est contrôlable. Et on peut donner des permissions sur chacun des petits gizmos qui est disponible. Et là, il faut maîtriser l'ensemble des petits gizmos qui sont disponibles et aller avec ça. Et pour faire rebondir aussi sur le fait que l'identité s'est rendue en cloud, l'élément principal, puis c'est pour ça aussi, c'est aussi peu maîtrisé, c'est qu'avant, on contrôlait les connexions réseau, on contrôlait les patchs ou ces éléments-là. Donc, on avait beaucoup moins d'efforts à mettre sur l'identité.
Oui.
Et là, on a basculé littéralement sur ce qui était avant les règles de firewall avant. Maintenant, c'est l'identité qui est rendue le point principal et à laquelle il faut faire même peut-être plus attention que les règles de firewall à l'époque qui permettaient de contrôler les flux.
Absolument. Sauf que le problème, c'est que nos équipes GIA sont pas guéries pour ça. Là. Elles sont pas formées. Elles sont pas dimensionnées. Elles ont pas les outils nécessaires pour ça. Ça, c'est une réalité qu'on vit chez tous nos clients. C'est un enjeu, c'est extrêmement complexe pour les équipes GIA. Des équipes GIA qui souvent, d'ailleurs, ont une culture plus de conformité. C'est toujours le principe, l'approbateur a validé, le gestionnaire a validé la demande d'accès. Nous, on est là pour attribuer ensuite et vérifier que c'est conforme à ce qui a été demandé. Pas à challenger ce qui a été demandé. Donc c'est pas des alertes, c'est pas des équipes faites pour travailler dans un mode de détection de menaces. Et là j'ai forcément un livreur qui sonne en plein pendant.
Ouais, mais c'est ça le post-confinement, c'est d'avoir des livraisons auto pendant toute la journée, puis bon de se faire interpeller comme ça là. C'est un changement de paradigme qu'il y a eu. L'info numérique maintenant, on ne se déplace plus, on est dans le monde physique, on se reçoit directement à la maison. Là.
Il va le laisser, c'est bon. Donc la réalité, effectivement, aujourd'hui, c'est qu'on a des comportements autour de l'identité dans l'info nuagique qui sont vraiment, liés à la détection de menaces, intéressantes pour un SOC. Mais on n'est pas prêt. Alors, ça donne quoi concrètement? Qu'est-ce que ça donne justement ce problème de over-privilege dans l'info nuagique? Ça donne un client avec qui on est intervenu sur un incident. Ce client, en fait, il n'était pas dans l'info nuagique de type Azure. Il consommait pas d'Azure, il consommait juste M365. Le problème, c'est que M365, tout ce qui est gestion des identités et des permissions dans M365, c'est géré par anciennement Azure AD, Entra ID. Que Entra ID, en fait, c'est un gestionnaire qui s'occupe de l'ensemble des permissions dans l'environnement, dans l'écosystème Microsoft Cloud, incluant Azure. Et là, il se trouve qu'on a eu chez ce client, un utilisateur qui s'est fait hameçonner. Et puis, il s'est fait hameçonner, visiblement, par quelqu'un qui était quand même, lui, pas mal connaissant dans les permissions cloud. Et il s'est rendu compte que l'utilisateur qu'il avait hameçonné était un utilisateur M365, mais que cet utilisateur, il avait la permission de créer des souscriptions Azure. Donc là, vous voyez, exemple typique de overprivilege. Ce client, il est parti en week-end, tout va bien, il est revenu le lundi, puis là, il s'est retrouvé avec un bill. En fait, ça a été plus qu'un week-end, lui, cet exemple-là, ça a été sur plus d'une semaine. Au bout d'un moment, il a reçu un bill Azure, il n'a pas compris. C'est quoi ça? Moi, je ne consomme pas d'Azure. Et en fait, c'est que l'attaquant, lui, il avait compris, il s'était créé une souscription, il avait créé des VM, et il était en train de faire du crypto mining. Au profit, à son profit, parce que ça, c'est une des actions vraiment favorites des attaquants dans l'info nuagique, c'est d'utiliser votre carte de crédit pour faire de la crypto.
Ouais, c'est passé. Il y a un nom pour l'argent, en fait. Ça revient toujours à ça aussi. Là,
on revient à ce que tu disais, le côté chose simple. Je peux faire une rançon ou je peux juste me contenter de faire du crypto mining et puis c'est encore plus simple, j'ai rien à gérer en termes de relations clients entre guillemets, hein, de relations avec la victime, etc. Donc là, vous voyez, on était même pas sur un cas de mauvaise configuration de serveur dans l'info nuagique. On était vraiment chez un client qui n'avait même pas encore commencé sa migration, mais il était dans M365 et il s'était pas rendu compte de l'importance de contrôler les permissions dans N365. Et ça aboutit effectivement à cet incident. Donc ça, c'est une belle, bah voilà, c'est une belle démonstration. Après, on a aussi, bah en fait, je vous disais, ça arrive encore d'avoir des serveurs, mais c'est encore lié à l'identité, là, mais des serveurs, des problèmes de serveurs exposés. Chez un autre client, bah c'était, alors là, c'était un peu particulier. C'était le MSP, du client qui gérait son infrastructure. Je pense que c'était dans Azure, mais bon, là, en l'occurrence, ça change pas grand-chose. Et qui exposait un serveur RDP avec un mot de passe faible. Donc, bah, en fait, il s'est passé ce qui se passe d'habitude dans ces cas-là. D'un moment, par brute force, en fait, ils ont réussi à prendre accès dans le serveur RDP. Le serveur RDP, là, par contre, c'est là où on attaque l'aspect propre à l'info nuagique. Il avait une identité, il avait des permissions qui lui étaient attachées. Et ça a permis en fait à l'attaquant de remonter aussitôt au niveau de la couche de gestion et puis de découvrir encore une fois qu'il pouvait lancer d'autres services afin de faire de la crypto, ce qu'il a fait. Et là, cet incident-là, c'était effectivement dans un week-end. Alors, en un week-end, c'est une facture à 6 chiffres qui est arrivée sur l'entreprise.
C'est un méchant, mauvais surprise d'arriver le lundi matin avec une facture à 6 chiffres parce que quelqu'un a monté un espèce de serveur de fou, parce que c'est ça qu'il a dû faire.
Ouais, non, en fait, c'est plusieurs.
Plusieurs, ben
ouais. C'est ça le point. C'est que là, parce que là, tiens, on parlait de l'automatisation. Ben, ça, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, là, on ne monte plus l'attaquant. Il ne monte pas un serveur pour faire de la crypto mining. Non, non, non. L'info nuagique, c'est moderne. T'as plein de régions. T'as plein de zones de disponibilité. Et donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a des scripts où il déploie dans toutes les régions accessibles. Donc là aussi, c'est un problème de configuration parce que je devrais pas avoir toutes les régions accessibles si je consomme pas toutes les régions. Mais bon, voilà, bref. Dans toutes les régions accessibles, je vais aller démarrer des AKS ou des EKS, des Kubernetes, et je vais aller starter des conteneurs qui vont me faire du crypto mining. Donc là, c'est pas un serveur, c'est que je vais en avoir des centaines de pods là, qui vont simultanément, intensivement consommer du crypto mining. C'est pour ça que ça va très très vite la facture. Parce que là, forcément, c'est démultiplié là, le.
Wow, ouais, ben effectivement. Il bénéficie des avantages de l'info nuagique. Ces scripts-là circulent beaucoup entre méchants aussi. C'est ça aussi un aspect qui est important à mentionner pour ceux que ça intéresse, c'est ces échanges. Fait que s'ils trouvent comme l'eau, s'ils trouvent le chemin pour rentrer, c'est sûr qu'un de ces scripts-là va être utilisé pour déployer massivement, peu importe l'objectif qui est recherché en l'occurrence.
Ouais, parce que ça, des centaines de pods comme ça qui font du crypto mining, ce qu'il faut comprendre là, c'est que c'est un script qui prend 5 minutes à exécuter et vous vous retrouvez dans une trentaine de data centers avec des pods en train de faire du mining sur votre carte de crédit. Ça va très vite. Mais après, il y a des choses plus classiques. Il y a toujours je vous parlais des configurations, hein, qui est vraiment aussi un chemin d'attaque important, là. Les configurations, on a notamment les configurations du stockage. Alors, ça a un petit peu changé dans le sens où c'est vrai que on a toujours les buckets exposé par erreur sur Internet, c'est incroyable. On est en 2025. Je veux dire, c'est comme tellement un aveu d'échec de voir encore des problèmes de buckets exposés. Mais il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais pas si pour ceux qui veulent essayer, exposer un bucket sur S3 sur AWS public, je vous assure, faut vraiment le vouloir. Hein. C'est genre, faut être très motivé. Ça devient compliqué. C'est compliqué de le faire. On peut même plus le faire en console, parce que justement, les fournisseurs font tout pour essayer de dire aux clients non, mais arrête, fais pas ça. Donc il y en a moins. Mais ce que les gens oublient, c'est que ben des fois il y en a de façon légitime, c'est correct, on le fait pour héberger un site web par exemple. Et ce qu'on oublie, c'est de vérifier quelles données on met sur ces buckets. Et ça, on a beaucoup on a de plus en plus d'enjeux là-dessus. Et puis j'en ai eu un d'incident d'ailleurs comme ça. Client, c'était son site web, et puis il s'est rendu compte que le développeur là, dans le pipeline, sans s'en rendre compte, là, il copiait pas que du JavaScript et HTML, il copiait des données clients sur ce qui était inclus dans ses fichiers. Là. Et il en a copié genre beaucoup. d'un point de vue, si tu veux, configuration, c'était correct, là, c'était exposé, c'était ce qu'on voulait, là. Et c'était un bucket qui était supposément contenir la donnée publique. Mais quand vous n'avez aucun contrôle pour vérifier que vos stockages stockent ce qu'ils sont supposés stocker, ben, vous pouvez pas dire, j'ai une sécurité correcte de gestion de mes données. C'est pas vrai, là. Je veux dire, quand je discute avec mes clients, je leur demande, mais comment tu fais pour t'assurer que tes buckets, les niveaux de protection sont adéquats avec la donnée qui est hébergée dedans, et qu'ils me disent, ben, on a un tag, c'est correct, on met un tag dessus, et puis ça, c'est de la donnée confidentielle, et ça, c'est de la donnée non protégée. OK, les tags, c'est très utile, ça permet plein de mécanismes, mais c'est pas ça qui te dit que c'est vrai, quoi, que vous n'êtes pas trompé, vous n'avez pas copié de la donnée sensible par erreur. Et ça, je m'aperçois qu'il y a assez peu encore d'entreprises qui font du contrôle, justement, de la découverte de la sensibilité des données sur leur stockage des plateformes info nuagées. On en fait de plus en plus au niveau de M365 dans les SaaS, surtout M365, avec des solutions comme PureView qui sont très efficaces pour explorer votre SharePoint, vos OneDrive, etc. Malheureusement, par exemple, les buckets S3, on a encore beaucoup d'entreprises qui se contentent de faire confiance à leurs utilisateurs et à leur politique de tagging, mais qui ne vérifient pas activement quelles sont les données stockées.
Ouais, puis c'est lent à changer ces habitudes-là. Je l'avais vu, puis plusieurs l'ont vécu comme ça, qui ont été migrés de sur-site au nuage, notamment, dont M365 en l'occurrence. Et comme il y a une énorme facilité à déployer des détecteurs de d'informations, notamment les cartes de crédit, les NAS, et ainsi de suite, mais quand on met ça à on, se rend compte à quel point il y en a beaucoup. Puis il y en a qui circulent par courriel, il y en a qui circulent partout. Puis là, ça fait comme, ben là, les utilisateurs, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi ça? Puis là, de poser des questions. Mais ce n'est pas dans l'habitude des gens. Donc, il n'y a pas de culture, en tout cas, du moins au Québec, de ce que j'ai pu apercevoir, très forte, de faire attention aux données, puis dès qu'on commence à faire la découverte, ben là, les gens sont horrifiés. Là, il y a un peu de déni, ils sont en crise, puis à un moment donné, ils vont arriver à changer leurs habitudes. Mais ça prend quand même un peu de temps de ce que j'ai aperçu. Puis on parle juste de M365, on parle pas d'éléments plus complexes, à mon sens, que des buckets ou des blobs ou tous les storages qui sont en dehors des éléments de type SaaS.
Et tu vois, c'est d'autant plus malheureux parce que dans, justement, on parlait de l'automatisation possible. Ben, ça, c'est des scénarios parfaits d'automatisation. C'est-à-dire qu'il y a toutes les solutions, il y a toutes les capacités pour faire de la découverte automatisée des données qui sont stockées sur tes buckets et automatiquement, en fonction de la découverte, modifier les tags associés et modifier les configurations d'exposition associées ou envoyer des alertes. Tu sais. Tout ça, c'est très faisable. Ça implique des budgets, c'est certain, pour faire cette découverte des données. C'est pas, en général, c'est des outils qui sont pas mis gratuitement à disposition, ou pas complètement gratuitement, on va dire. Et puis ça nécessite des efforts. Et effectivement, comme tu dis, ça nécessite aussi un programme derrière de gestion de ce type d'alerte, des équipes, des processus. Et ça, c'est très dépendant, ouais, de la maturité de l'entreprise.
Oui. Et puis ça prend du temps. Puis pour l'avoir vécu, des fois, j'ai juste ouvert par... C'est comme ouvrir les lumières. Puis là, il y a plein de choses que tu... Dans une sale son, puis ce que tu vois grouiller, là, tu fais « Oh, OK, bon. » Puis là, c'est là où les gens ont un peu plus de misère parce que là, ils sont exposés à une situation dans laquelle ils ne étaient pas exposés. Il y a un plan de com, un plan de changement est très nécessaire parce que j'ai essayé une place puis on m'avait demandé de juste d'ouvrir les lumières pour regarder ce qui était là. Et il n'y a eu aucune adhésion qui s'est faite à ces plans-là. Donc, j'ai l'impression, encore maintenant, dans cet état-là de déni, au lieu d'avoir pris cette occasion-là, OK, bon, on va réformer nos processus, on va sensibiliser nos gens et on va aller plus loin. Justement pour ça, parce qu'après ça, tu le mentionnes, les buckets, c'est une chose, mais les buckets ont une identité et aussi, ils sont exposés à certains égards. Donc, on est toujours à risque. Et la quantité de les buckets S3 ont une mauvaise réputation, puis c'est pour ça qu'Amazon a rendu ça très, très compliqué de rendre public, parce que les gens sont négligents. C'est pas la faute de AWS, c'est la faute de la négligence des gens, mais ça avait une mauvaise réputation sur AWS. Fait qu'en fait, ben là, on veut plus être associé à vos folies, là.
Effectivement. Ben, c'est ça pour ça, en fait, l'enfant nuagique ne change rien à la problématique qu'on a on-premise. Ça prend des processus, ça prend des vrais plans, et puis une ambition. Quelque part aussi, là, une ambition là, de vouloir bien faire. Puis, bah, c'est sûr qu'on ne l'a pas, bon, bah, ça ne marchera pas. Là, ça, on revient à notre introduction. Là, on constate les problèmes.
On viendra vous sauver quand vous serez en train de vous noyer.
Mais on est là pour vous aider.
On est à disposition.
Oui. As-tu d'autres chemins d'attaque que tu voulais aborder?
Bah, peut-être le dernier, ce que j'aime bien, c'est commencer à mettre en avant. Là, très honnêtement, on ne le voit pas encore beaucoup au Québec, parce que je pense qu'on n'est pas encore suffisamment dans ce niveau de maturité, on n'est pas encore suffisamment élevé en maturité là-dessus. Et ça commence à arriver de plus en plus de manière globale, on va dire, de manière mondiale. C'est les attaques sur les pipelines. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'info nuagique, on parlait de l'automatisation, bah, vient souvent la notion d'infrastructure as code, et puis également pour les applications de pipeline, de livraison. Donc, on ne veut plus faire des CTRL-C, CTRL-V de package à minuit le vendredi soir en croisant les doigts, en espérant que ça va marcher. On est sur une nouvelle réalité où, en fait, on va pousser régulièrement des updates en production via des pipelines qui font un certain nombre de tests. Le problème, l'avantage, bon, les avantages, il y en a plein, on peut en parler. L'inconvénient qu'on peut parfois observer, c'est que ces pipelines, comme justement leur but, c'est de livrer de l'infrastructure et des applications dans votre environnement info-nuagique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont énormément d'accès, ces pipelines. Ça veut dire qu'ils sont un peu tout puissants, ces pipelines. Ils sont, en général, bien souvent, ils sont administrateurs. Donc, là, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un nouveau vecteur d'attaque. C'est-à-dire que si je ne peux pas attaquer directement la couche de gestion de l'info nuagée, ben, je prends le contrôle du pipeline et puis ben, je vais pousser mes updates tranquillement dans le pipeline. Et c'est ce qu'on commence à observer, des attaques dans ce style. Où via justement la prise de contrôle d'une identité de développeur, donc ça peut être via de l'hameçonnage ou différentes techniques traditionnelles, on va aller intégrer des changements dans le code ou dans l'applicatif via le pipeline. Et au niveau du code d'infrastructure, je veux dire, ce qu'on observe là, c'est notamment autour de Kubernetes, on observe des attaques menées où on va vouloir déployer des images de conteneurs qui sont malicieuses via le pipeline compromis du client. Et ça, c'est intéressant pour un attaquant parce qu'en fait, il vient créer sa persistance. C'est-à-dire que dès l'instant où il a réussi via le pipeline à compromettre une image de conteneur, ça veut dire que le Kubernetes, lui, restarter l'image, on va tuer et puis on va restarter l'image, bah, il va restarter l'image qui est compromise, donc à la base... On garde la backdoor ouverte, en fait. Donc, on a eu des cas comme ça qui ont été observés. Nous, on ne l'a pas observé au Québec. Mais je pense que c'est ma recommandation, ça serait de commencer à garder ça en vue, là, à l'esprit. Le travail de sécurisation de votre pipeline, là, c'est vraiment important. Là. C'est une porte ouverte, là. Donc, faut s'assurer que bah oui, on a du peer review, mais qu'on a du peer review qui est réellement efficace, qui n'est pas juste valide, tout ce qu'on me soumet, là, tu sais, ce qui est parfois est le cas. Il y a différents contrôles comme ça qu'on peut mettre dans les pipelines pour s'assurer que c'est correct.
Oui, tout à fait. Puis, ça rompt un peu sur l'ensemble du supply chain aussi. Il y a plusieurs autres, les packages corrompus, des mauvaises versions, etc., qui sont de plus en plus présent. Là. Puis moi non plus, je n'ai pas vu au Québec encore, mais ça ne saurait que tarder avant qu'on frappe un premier cas qui justement s'est fait toucher comme ça par ces éléments-là. Ben, ça complète. Là. Tu m'as dit que c'était ton dernier, fait que je te remercie énormément. Un, c'était intéressant sur place. Tu as été avec les comment tu dis, pugnaces, ceux qui étaient les plus résistants. justement, puis on a pris note du fait qu'on va faire un 5 à 7 le dernier soir aussi. c'est bien noté. On va faire ça pour l'an prochain. Puis, merci encore une fois pour ce partage-là. C'est excellent. Puis, il y a des très bonnes réactions en salle aussi, dans lesquelles je pense qu'il y a eu un bel échange d'informations.
Super. Eh ben, merci beaucoup pour l'accueil. En tout cas, c'était très agréable.